Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Les toutes premières étoiles qui se sont formées dans l'univers à partir de 200 ou bien de 100 millions d'années après la singularité sont appelées des étoiles de population 3.1. La plupart d'entre elles étaient très massives, voire super massives. Et bien aujourd'hui, un astrophysicien américain propose, analyse et calcule rigoureux à l'appui, que ces premières étoiles supermassives ont pu être les graines des premiers trous noirs supermassifs. Et cerise sur le gâteau, grâce à leur fort effet ionisant sur le milieu qui les entourait, elles pourraient résoudre plusieurs tensions cosmologiques qui sont observées aujourd'hui, et non des moindres. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Les étoiles de population 3.1 naissent dans des mini-halos de matière noire d'environ 1 million de masses solaires, qui sont définies comme les premières structures effondrées sans métal à se former dans l'univers, de sorte qu'elles ne sont pas affectées par les rétroactions externes, en particulier les rétroactions ionisantes, provenant de sources astrophysiques, c'est-à-dire d'autres étoiles. Les mini-halos exempts de métaux qui ont été ionisés ou partiellement ionisés, c'est-à-dire les sources de population 3.2, devraient, elles, présenter des abondances élevées d'hydrogène moléculaire, catalysé par la présence d'électrons libres, qui favorise le refroidissement et donc la fragmentation dans le mini-halo. Mais ce n'est pas le cas pour les étoiles de population 3.1. On sait que le processus d'annihilation de la matière noire à particules de type WIMP, des particules massives interagissant faiblement, dans une proto-étoile de population 3.1, peut affecter la structure stellaire, en particulier en maintenant la proto-étoile dans un état relativement froid, ce qui peut alors lui permettre d'éviter la rétroaction de photoévaporation qui tronque généralement l'accrétion en cas de contraction. Ainsi, la proto-étoile de population 3.1 pourrait atteindre une masse d'environ 100 000 masses solaires. Et oui, c'est énorme. Le modèle prédit ainsi que tous les trous noirs supermassifs se forment tôt dans l'univers, c'est-à-dire vers un redshift de 20, c'est-à-dire 180 méganées après le Big Bang, sous forme donc de graines d'environ 100 000 masses solaires, et que l'effet ionisant des étoiles supermassives de population 3.1 détermine l'abondance cosmique de ces trous noirs supermassifs, avec des valeurs de l'ordre de 0,1 trou noir par centimégaparsec cube. Il faut noter que d'autres modèles de formation de graines lourdes par effondrement direct dans des halos irradiés, toujours sans métal, ou turbulents refroidis, d'environ 100 millions de masses solaires, peine à atteindre ce niveau d'abondance de plusieurs ordres de grandeur. Alors d'autre part, Jonathan Tan de l'Université de Virginie, qui a fait cette étude, rappelle que la formation des trous noirs supermassifs par la population 3.1 peut expliquer naturellement pourquoi il semble y avoir une échelle de masse minimale caractéristique dans la population des trous noirs supermassifs, c'est-à-dire une pénurie de trous noirs de masse intermédiaire dans la gamme de masse entre 100 et 10 000 masses solaires, et ce qui serait lié à la teneur en masse baryonique des mini-halos de la population 3.1. La théorie stipulant que les étoiles de population 3.1 sont à l'origine de la formation des trous noirs supermassifs prédit aussi qu'une partie importante de l'univers primitif a été ionisée par ces étoiles supermassives, à des redshifts de 20 à 30, donc entre 100 et 180 méganées après le Big Bang. Une époque que Tan a baptisée l'époque du flash. Cette phase aurait été suivie d'une recombinaison vers un état neutre en quelques dizaines de millions d'années, Tan a donc cherché à montrer quelles seraient les implications de cette ionisation très précoce pour la profondeur optique de diffusion du fond diffus cosmologique, le CMB, un paramètre qu'on appelle tau. C'est une mesure de la quantité de lumière qui est diffusée lorsqu'elle traverse un milieu, comme une couche d'atmosphère, un nuage ou tout autre matériau transparent ou translucide. Elle est définie comme étant le logarithme de la fraction de lumière absorbée ou diffusée par les composants de la couche traversée. Donc c'est une grandeur sans dimension qui vaut 0 si le milieu est parfaitement transparent et 1 si il est parfaitement opaque. Le milieu intergalactique ionisé qui est produit à partir des populations de galaxies standards contribue à une profondeur optique de diffusion des photons du CMB qui vaut 0,06, ce qui correspond au dernier résultat publié par la collaboration Planck en 2020, qui trouvait tau égal 0,054 plus ou moins 0,007. Mais une analyse plus récente de Belzunce et collaborateurs en 2021 a donné une valeur de tau de 0,063 plus ou moins 0,005. Les histoires de rayonisation qui correspondent à ces données du CMB indiquent que la rayonisation a commencé à un redshift de 12, donc 370 méganées après le Big Bang, et s'est terminé à un redshift Z de 5, donc 1,3 giganées après le Big Bang. Mais il y a quelques mois, trois articles par Alali et collaborateurs, Javeri et collaborateurs, et Sailor et collaborateurs, ont avancé une valeur de tau plus élevée, environ 0,09, c'est-à-dire nettement supérieure aux valeurs déduites du CMB. Et les modèles théoriques indiquent que ces valeurs plus élevées contribueraient à atténuer les tensions sur la constante de Hubble, basée sur les mesures du CMB par Planck, ainsi que des récentes mesures des oscillations acoustiques baryoniques, qui ont été effectuées par le Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI. Alors rappelons que les résultats de DESI combinés aux résultats du CMB de Planck se traduisent par une préférence pour des masses négatives de neutrinos et une énergie noire évolutive. Alors il faut rappeler néanmoins que, comme l'ont souligné les différents auteurs, la mesure de tau à partir du CMB est confrontée à un grand nombre d'incertitudes systématiques qui sont difficiles à résoudre, savoir les effets systématiques instrumentaux et les premiers plans astrophysiques qui pourraient encore permettre une compatibilité avec une valeur plus élevée. Alors si tau est en réalité plus proche de 0,09, cela aurait des implications majeures pour l'histoire de la rayonisation de l'univers. En particulier, cela nécessiterait une phase supplémentaire d'ionisation, qui n'est pas spécifiquement incluse aujourd'hui dans la plupart des modèles astrophysiques. Le gaz intergalactique doit être ionisé pour être transparent. Étant donné que la fraction d'ionisation du milieu intergalactique qui est observée est proche de l'unité à un redshift de 10, ce qu'avaient montré Tang et collaborateurs en 2024, eh bien les résultats de Furlanetto et Loeb de 2005 indiquent qu'une phase précoce d'augmentation de la fraction d'ionisation de l'univers nécessiterait une population très distincte de sources ionisantes à grand redshift. Et vous me voyez venir, il se trouve que justement, les étoiles supermassives de la population 3.1 pourraient être de telles sources d'ionisation, en plus d'offrir une origine pour les trous noirs supermassifs. Jonathan Tan a donc calculé le paramètre tau qui est directement produit par les étoiles de population 3.1. Il trouve une contribution pour tau d'environ 0,04. En combinant cette valeur avec la contribution des populations galactiques standards, un redshift inférieur à 10, une valeur qui vaut 0,06, on obtient donc un total de tau égal 0,10. Le modèle des étoiles de population 3.1 permet donc de retrouver la valeur de tau récemment mesurée par Alali, Javeri, Sailor et leurs collaborateurs. De plus, Tan explique que l'émission radio qui provient de l'époque du flash devrait augmenter le fond radio cosmique, Ce qui pourrait aider à expliquer une autre anomalie. La grande profondeur d'absorption de la raie à 21 cm qui a été rapportée par l'expérience EDGES, Experiment to Detect the Global EOR Signature. Le signal détecté par cette expérience est centré sur un redshift de 17,2 et il présente une profondeur d'absorption au moins deux fois plus forte que celle prévue par les scénarios astrophysiques standards du modèle Lambda-CDM. Une explication possible de cette observation implique un fond radio plus élevé, équivalent à une température de brillance de 67,2 Kelvin, c'est-à-dire nettement supérieure à celle du CMB à ses redshifts, qui vaut 49,5 Kelvin. Alors à l'inverse, la confirmation de la profondeur d'absorption de la raie à 21 cm qui est mesurée par EDGES imposerait des contraintes plus strictes au modèle de population 3.1. Et ça motive encore plus l'exploration du scénario de rayonisation flash par les étoiles de population 3.1 pour Jonathan Tan. Alors en résumé, les étoiles de population 3.1 supermassives permettraient d'expliquer d'une part la naissance des trous noirs supermassifs et produiraient en outre une intense ionisation précoce de l'univers, une ionisation flash qui n'était jusque-là non prise en compte. Or, cette ionisation supplémentaire, une fois ajoutée dans les modèles, permettrait de réduire la tension sur la constante de Hubble et aussi l'apparente évolution de l'énergie noire en modifiant l'analyse du CMB. Et puis également de résoudre partiellement l'anomalie de l'expérience EDGES. Alors c'est, il faut le dire, une solution très élégante, sans oublier que ces étoiles supermassives ne peuvent exister que par l'existence de particules de matière noire qui peuvent s'annihiler. L'article de Jonathan Tan s'intitule Une ionisation flash de l'univers primitif par des étoiles supermassives de population 3.1 et il est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 989, qui date du 19 août 2025. Et puis voilà, et d'ici la prochaine, hein, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, surtout, même s'il y a des nuages. Ouais, ça fera un petit peu d'eau. Et restez bien les pieds sur terre, hein. Allez, salut!